Compréhension de l'oral, niveau fondamental. Sujet numéro 1. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
Il est installé devant le restaurant La Cantine du 18e, juste à côté de la porte d'entrée. Facilement identifiable à son logo rouge des frigos solidaires collé sur la porte, il est accessible à tous. Chacun peut y déposer ou au contraire prendre des aliments. Martine, habitante du quartier, l'approvisionne régulièrement.
Je trouve que c'est une très bonne initiative. Moi, j'ai parfois du trop, tant qu'à faire, autant que d'autres en profitent. L'autre jour, un monsieur a pris une boîte d'œufs. Il me dit, oh, c'est dommage, il n'y a pas de pain. Ben, je lui dis, venez, je vais vous acheter du pain. La semaine dernière, j'ai mis des dattes, j'ai mis des gâteaux. J'avais mis quoi aussi? Du riz bio. L'après-midi, les gens s'étaient servis. C'est vrai, ça part très vite.
La solidarité des riverains, mais aussi celle des commerçants qui apportent leurs invendus, obligatoirement non périmés, profitent à une 50aine de personnes par jour. Étudiants pauvres, travailleurs précaires, chômeurs, retraités. Le frigo en partage de la cantine du 18e fonctionne depuis 1 an et demi sans le moindre problème. Pas de vol ni de dégradation, très peu d'abus. Dounia Meptoul, propriétaire du restaurant.
Le frigo est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui est bien aussi de l'avoir en extérieur la nuit, c'est que nous, quand on ferme, beaucoup de personnes se présentent pour se servir parce qu'il n'y a plus personne aux alentours. La rue est vide, la lumière est éteinte, donc ça les incite peut-être plus facilement à se servir, sans gêne, sans timidité. Et après, il faut savoir que quand vous êtes face au frigo, personne ne sait si vous pratiquez un dépôt ou un retrait. On ne le voit pas. C'est quand même la beauté du projet, c'est que c'est très, très discret.
Encouragée par la réussite de son initiative, la jeune femme a créé aussi une association qui aide d'autres commerçants à installer leur propre frigo solidaire. Grâce à un financement participatif, une 10aine de nouveaux réfrigérateurs de ce type pourraient être inaugurés d'ici le mois d'avril.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
Il est installé devant le restaurant La Cantine du 18e, juste à côté de la porte d'entrée. Facilement identifiable à son logo rouge des frigos solidaires collé sur la porte, il est accessible à tous. Chacun peut y déposer ou au contraire prendre des aliments. Martine, habitante du quartier, l'approvisionne régulièrement.
Je trouve que c'est une très bonne initiative. Moi, j'ai parfois du trop, tant qu'à faire, autant que d'autres en profitent. L'autre jour, un monsieur a pris une boîte d'œufs. Il me dit, oh, c'est dommage, il n'y a pas de pain. Ben, je lui dis, venez, je vais vous acheter du pain. La semaine dernière, j'ai mis des dattes, j'ai mis des gâteaux. J'avais mis quoi aussi? Du riz bio. L'après-midi, les gens s'étaient servis. C'est vrai, ça part très vite.
La solidarité des riverains, mais aussi celle des commerçants qui apportent leurs invendus, obligatoirement non périmés, profitent à une cinquantaine de personnes par jour. Étudiants pauvres, travailleurs précaires, chômeurs, retraités. Le frigo en partage de la cantine du 18e fonctionne depuis un an et demi sans le moindre problème. Pas de vol ni de dégradation, très peu d'abus. Dounia Meptoul, propriétaire du restaurant.
Le frigo est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui est bien aussi de l'avoir en extérieur la nuit, c'est que nous, quand on ferme, beaucoup de personnes se présentent pour se servir parce qu'il n'y a plus personne aux alentours. La rue est vide, la lumière est éteinte, donc ça les incite peut-être plus facilement à se servir, sans gêne, sans timidité. Et après, il faut savoir que quand vous êtes face au frigo, personne ne sait si vous pratiquez un dépôt ou un retrait. On ne le voit pas. C'est quand même la beauté du projet, c'est que c'est très, très discret.
Encouragée par la réussite de son initiative, la jeune femme a créé aussi une association qui aide d'autres commerçants à installer leur propre frigo solidaire. Grâce à un financement participatif, une dizaine de nouveaux réfrigérateurs de ce type pourraient être inaugurés d'ici le mois d'avril.
Sujet numéro 2. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 2, document sonore, première écoute.
On va parler de tourisme, c'est donc avec vous Philippe Lefebvre. Bonjour Philippe.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Aujourd'hui, comme on dit, c'est un produit touristique tendance, quelques chiffres pour s'en convaincre. L'hôtellerie de plein air, entre 2016 et 2017, a enregistré 124 millions de nuitées, soit une progression de 6% en un an. Alors, petit détail, quand on parle de nuitées, il s'agit en fait du nombre de clients qui ont séjourné la saison dernière dans un établissement. Par exemple, un couple qui passe une nuit dans un camping, eh bien, ça correspond à 2 nuitées.
Mais quand vous parlez d'hôtellerie de plein air, Philippe, c'est le nouveau nom tendance. C'est pour ne pas dire camping?
Oui, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, ce type d'hébergement est multiforme. Et on peut aussi dire que le camping, c'est un petit peu embourgeoisé, même si le carré d'herbe pour planter sa tente Quechua existe toujours. Explication de François Georges, c'est le PDG des campings Sandaya.
Peut-on dire que le camping s'est embourgeoisé? On peut dire que le camping est aujourd'hui différent. Nous disposons grosso modo encore d'environ un tiers d'emplacements nus, c'est-à-dire des emplacements qui permettent d'accueillir des tentes, des camping-cars ou des caravanes. Mais grosso modo, les deux tiers de nos emplacements sont en fait avec de l'hébergement de type mobile home ou bungalow ou éventuellement hébergement insolite. Ça peut être des cabanes dans les arbres, ça peut être des cabanes sur l'eau, ça peut être des tentes lodge, des hébergements qui permettent aux clients de vivre une expérience différente.
Oui, ça va même beaucoup plus loin que cela. Vous avez des hébergements qui ressemblent à des grandes tentes, mais à l'intérieur, eh bien, vous trouvez plusieurs chambres avec des vrais lits, une cuisine, un séjour, des sanitaires, une douche, du chauffage par le sol, et mieux encore Eric, car je sais que vous aimez votre petit confort, oui. On vous propose des mobil-homes avec votre petit jacuzzi privé sous les arbres, ultra chic, et pour la coupe de champagne qui va avec, aucun problème puisqu'il y a un réfrigérateur dans le mobil-home.
Eh ben, je prends tout ça. Et on a le sentiment d'ailleurs, Philippe, d'une course aux investissements hein, pour rendre ces campings toujours plus grands, toujours plus beaux.
Oui, il faut savoir que les grandes chaînes de camping qui représentent à elles seules 27% des emplacements commercialisés en France investissent chaque année au moins 22% de leur chiffre d'affaires pour créer de nouveaux équipements et surtout les incontournables parcs aquatiques. Et il y a des régions où les investissements sont encore plus importants. Sur la côte languedocienne, par exemple, ça représente l'équivalent de 10 Airbus oui. A318.
Et du côté prix, il faut compter combien en plein été?
Ça commence à 15€ la nuit pour un emplacement nu. Alors juste pour mettre sa tente dans un camping municipal avec douche et sanitaire collectif. Mais dans les campings nouvelle génération avec parc aquatique, supérette, restaurant, animation et même parfois bowling, ça coûte beaucoup plus cher.
Passer une semaine l'été, ça va coûter à peu près 1 200€ avec un écart type qui peut être important puisque nous proposons aussi des hébergements dit premium, avec éventuellement même des jacuzzis particuliers, et puis des hébergements un peu plus rudimentaires.
Donc il ne vous reste plus qu'à redécouvrir les joies de l'hôtellerie de plein air en choisissant plutôt les sites 4 et 5 étoiles, on va dire les plus haut de gamme, et bien sûr les mieux équipés.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
On va parler de tourisme, c'est donc avec vous Philippe Lefebvre. Bonjour Philippe.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Aujourd'hui, comme on dit, c'est un produit touristique tendance, quelques chiffres pour s'en convaincre. L'hôtellerie de plein air, entre 2016 et 2017 a enregistré 124 millions de nuitées, soit une progression de 6% en un an. Alors, petit détail, quand on parle de nuitées, il s'agit en fait du nombre de clients qui ont séjourné la saison dernière dans un établissement. Par exemple, un couple qui passe une nuit dans un camping, eh bien, ça correspond à 2 nuitées.
Mais quand vous parlez d'hôtellerie de plein air, Philippe, c'est le nouveau nom tendance. C'est pour ne pas dire camping?
Oui, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, ce type d'hébergement est multiforme. Et on peut aussi dire que le camping, c'est un petit peu embourgeoisé, même si le carré d'herbe pour planter sa tente quechua existe toujours. Explication de François Georges, c'est le PDG des campings Sandaya.
Peut-on dire que le camping s'est embourgeoisé? On peut dire que le camping est aujourd'hui différent. Nous disposons grosso modo encore d'environ un tiers d'emplacements nus, c'est-à-dire des emplacements qui permettent d'accueillir des tentes, des camping-cars ou des caravanes. Mais grosso modo, les 2 tiers de nos emplacements sont en fait avec de l'hébergement de type mobile home ou bungalow ou éventuellement hébergement insolite. Ça peut être des cabanes dans les arbres, ça peut être des cabanes sur l'eau, ça peut être des tentes lodge, des hébergements qui permettent aux clients de vivre une expérience différente.
Oui, ça va même beaucoup plus loin que cela. Vous avez des hébergements qui ressemblent à des grandes tentes, mais à l'intérieur, eh bien, vous trouvez plusieurs chambres avec des vrais lits, une cuisine, séjour, des sanitaires, une douche, du chauffage par le sol, et mieux encore, Eric, car je sais que vous aimez votre petit confort. Oui. On vous propose des mobil-homes avec votre petit jacuzzi privé sous les arbres, ultra chic, et pour la coupe de champagne qui va avec, mais aucun problème puisqu'il y a un réfrigérateur dans le mobil-home.
Eh ben, je prends tout ça. Et on a le sentiment d'ailleurs, Philippe, d'une course aux investissements pour rendre ces campings toujours plus grands, toujours plus beaux.
Oui, il faut savoir que les grandes chaînes de camping qui représentent à elles seules 27% des emplacements commercialisés en France investissent chaque année au moins 22% de leur chiffre d'affaires pour créer de nouveaux équipements et surtout les incontournables parcs aquatiques. Et il y a des régions où les investissements sont encore plus importants. Sur la côte languedocienne, par exemple, ça représente l'équivalent de 10 Airbus A318.
Et du côté prix, il faut compter combien en plein été?
Ça commence à 15€ la nuit pour un emplacement nu. Alors juste pour mettre sa tente dans un camping municipal avec douche et sanitaire collectif. Mais dans les campings nouvelle génération avec parc aquatique, supérette, restaurant, animation et même parfois bowling, ça coûte beaucoup plus cher.
Passer une semaine l'été, ça va coûter à peu près 1 200€ avec un écart type qui peut être important puisque nous proposons aussi des hébergements dits premium avec éventuellement même des jacuzzis particuliers et puis des hébergements un peu plus rudimentaires.
Donc il ne vous reste plus qu'à redécouvrir les joies de l'hôtellerie de plein air en choisissant plutôt les sites 4 et 5 étoiles, on va dire les plus haut de gamme et bien sûr les mieux équipés.
Sujet numéro 3. Vous avez 1 minute pour lire les titres. Vous allez écouter trois documents sonores. Document numéro 1.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle éducation, comme chaque vendredi. Et tout spécifiquement, on parle de l'orientation scolaire. Dans les systèmes francophones, c'est vrai que l'orientation se décide relativement jeune, à un âge où les jeunes, justement, ne savent pas souvent ce qu'ils veulent étudier. Ajoutez à cela les inquiétudes ou les désirs des parents et vous avez quelques discussions familiales un peu tendues. Sans parler du manque d'informations dans plusieurs pays pour faire les bons choix. Alors, comment trouver sa voie? On va en discuter avec nos invités. Juliette Abadi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et coach pour jeunes désorientés. Ou pas tout à fait. En tout cas, vous publiez « Au secours, mon ado s'oriente ». Amadou Boy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller en orientation et en insertion au Centre d'information et de documentation jeunesse. C'est le CIDJ qui se trouve au centre de Paris, tout près de la Tour Eiffel d'ailleurs.
Absolument.
On peut le dire comme ça aux jeunes, comme ça, histoire qu'ils viennent s'orienter, trouver des infos. En même temps, ils font un tour à la Tour Eiffel.
Exactement, sans rendez-vous.
Document numéro 2.
Bonjour, bienvenue les voisins, les voisines, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, vendredi. On parle d'éducation comme d'habitude, direction Singapour, un petit confetti en Asie avec ses airs de premier de la classe et son modèle d'éducation qui semble faire réussir les élèves. En effet, la cité-État a obtenu le plus haut score dans l'enquête PISA, vous savez cette enquête qui évalue les acquis des élèves de 15 ans, ceci dans 72 pays de l'OCDE et l'enquête a donc été révélée l'année dernière. Les ados singapouriens sont les plus forts en maths, en sciences et en lecture. Alors d'où vient ce succès? Existe-t-il une méthode gagnante de Singapour? Et faut-il pour autant s'en inspirer?
Document numéro 3.
Alors comment suivre son enfant, l'aider sans s'énerver? Pas évident quand on n'est pas un professionnel de l'éducation. Certains parents disent que les week-ends se transforment en cauchemar. Alors comment aborder le problème? Comment organiser au mieux ces moments? Nous allons en discuter avec nos invités. Une spécialiste de la parentalité positive. Bonjour Véronique Massier-Jacques.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bon, c'est un peu de la psychologie positive on va dire.
Oui, 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 tout à fait.
Vous publiez « Il ne veut pas faire ses devoirs ». Vous êtes consultante en parentalité. Vous avez aussi un site internet « Maman positive ».
Oui, on peut retrouver les informations, les conférences ou les formations que je dispense aux adultes.
Et vous avez commencé par galérer avec vos propres enfants,
oui,
et les devoirs.
Oui, exactement. Donc, dans l'avant-propos, c'est ce que je précise.
Parce que vous êtes...
Document numéro 1, deuxième écoute.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle éducation, comme chaque vendredi. Et tout spécifiquement, on parle de l'orientation scolaire. Dans les systèmes francophones, c'est vrai que l'orientation se décide relativement jeune, à un âge où les jeunes, justement, ne savent pas souvent ce qu'ils veulent étudier. Ajoutez à cela les inquiétudes ou les désirs des parents et vous avez quelques discussions familiales un peu tendues. Sans parler du manque d'informations dans plusieurs pays pour faire les bons choix. Alors, comment trouver sa voie? On va en discuter avec nos invités. Juliette Abadi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et coach pour jeunes désorientés. Ou pas tout à fait. En tout cas, vous publiez « Au secours, mon ado s'oriente ». Amadou Boy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller en orientation et en insertion au Centre d'information et de documentation jeunesse. C'est le CIDJ qui se trouve au centre de Paris, tout près de la Tour Eiffel d'ailleurs.
Absolument.
On peut le dire comme ça aux jeunes, comme ça, histoire qu'ils viennent s'orienter, trouver des infos. En même temps, ils font un tour à la Tour Eiffel.
Exactement, sans rendez-vous.
Document numéro 2, deuxième écoute.
Bonjour, bienvenue les voisins, les voisines. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, vendredi. On parle d'éducation comme d'habitude. Direction Singapour, un petit confetti en Asie avec ses airs de premier de la classe et son modèle d'éducation qui semble faire réussir les élèves. En effet, la cité-État a obtenu le plus haut score dans l'enquête PISA. Vous savez, cette enquête qui évalue les acquis des élèves de 15 ans. Ceci dans 72 pays de l'OCDE. Et l'enquête a donc été révélée l'année dernière. Les ados singapouriens sont les plus forts en maths, en sciences et en lecture. Alors d'où vient ce succès? Existe-t-il une méthode gagnante de Singapour? Et faut-il pour autant s'en inspirer?
Document numéro 3, deuxième écoute.
Alors comment suivre son enfant, l'aider sans s'énerver? Pas évident quand on n'est pas un professionnel de l'éducation. Certains parents disent que les week-ends se transforment en cauchemar. Alors comment aborder le problème? Comment organiser au mieux ces moments? Nous allons en discuter avec nos invités. Une spécialiste de la parentalité positive. Bonjour Véronique Massier-Jacques.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bon, c'est un peu de la psychologie positive on va dire.
Oui, 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 tout à fait.
Vous publiez « Il ne veut pas faire ses devoirs ». Vous êtes consultante en parentalité. Vous avez aussi un site internet Maman Positive.
Oui, on peut retrouver les informations, les conférences ou les formations que je dispense aux adultes.
Et vous avez commencé par galérer avec vos propres enfants,
oui,
et les devoirs.
Oui, exactement. Donc, dans l'avant-propos, c'est ce que je précise.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.